Bon, on va peut-être passer à un autre extrait d'un film que vous avez déjà vu, je crois, qui s'appelle La Féline, de Jacques Tourneur, le cinéaste dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui avait fait un film sur un monstre sans jamais montrer le monstre, et donc, voilà, comment dire, un as du hors-champ. Et donc là j'ai choisi cet extrait, ce passage de La Féline, parce que c'est un passage très connu où l'une des deux femmes est suivie par l'autre. L'autre, c'est la femme panthère ou la femme léopard, je ne sais quoi. Et donc, on a une suite de pas dans la rue, la nuit, l'une suivant l'autre.
Ils ont eu un devoir là, sur cet extrait.
Pardon ?
C'était l'objet
d'une évaluation.
Une évaluation.
C'est vrai ?
Oui. Ce sont les spécialistes.
Alors, c'est très bien, parce que ça, je vais pouvoir me reposer un peu. Voilà. On va le voir, et puis vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Très bien, très volontiers. Puis je vous dirai après ce que j'en ai pensé. Comment parler d'un moment de film ou d'un film entier alors qu'il y a tellement de choses à dire? On ne veut pas toutes les dire d'un coup. On choisit un moment. Et on se pose la question de savoir si tout n'est pas relié à cette chose qu'on a choisie. Alors, on a le choix. Ici, il y a la lumière, il y a l'ombre, il y a le son, il y a le hors-champ. On a trois ou quatre accès à ce qu'on vient de voir, et je propose que, si vous êtes d'accord, vous en choisissiez un et qu'on voit ce que ça donne. Oui ?
Il y a le son off, on entend les talons, mm-hmm. et au bout d'un moment, il s'arrête. Et alors là, ça entraîne tout le reste, le personnage qui a peur et tout ça. Donc,
c'est tout à fait... Absolument. Mais alors là, il faut, enfin, c'est bien, c'est juste, vous dites, mais je souhaiterais éventuellement, si c'est possible, un tout petit peu de précision supplémentaire. Parce que c'est pas seulement qu'à un certain moment, le bruit des talons s'arrête, ce qui est très angoissant, hein, je vous l'accorde. Parce que pourquoi c'est angoissant? Parce qu'on l'a beaucoup entendu avant. Hein. Il y a eu une montée en puissance du bruit des talons sur le pavé, souligné par le fait que la femme, disons l'innocente, accélère le pas. Elle a peur avant, elle n'a pas peur seulement quand elle n'entend plus le bruit des talons, elle a peur dès le début de la séquence, et même avant d'ailleurs, puisque vous avez remarqué que très finement, c'est de manière un peu lourde, je veux dire, il y a tout un dialogue autour de la peur, le mot peur revient trois fois, etc., etc. Donc c'est inscrit dans la tête du spectateur. Alors ça c'est juste, mais ce qui m'intéresse, c'est le moment où on réentend le bruit des talons. Avant, la caméra filme les traces de pas d'un animal qu'on suppose être une panthère ou quelque chose comme ça sur le sol. C'est après qu'on ait vu les moutons égorgés. Bon. Il y a un travelling qui suit les traces de pas. Et au bout de ce travelling, on entend très légèrement, d'abord les traces changent, elles deviennent peu à peu des traces de pas mouillés qui ressemblent de plus en plus à des pas humains, et on réentend tout doucement le bruit des talons juste avant qu'on ne voit la féline de nouveau à l'image qu'elle entre dans le champ. Alors c'est ça, il y a tout un trajet donc, du son avec ce... Il y a non seulement la disparition, mais il y a la réapparition qui est aussi très importante parce que ça veut dire que ce que l'autre a entendu n'était pas forcément une hallucination qu'elle avait, hein, mais que ça se confirme dans la mesure où il y a réapparition du son. Vous voyez ? Et donc ça renforce au fond la possibilité d'attribuer à cet arrêt du son et à cette renaissance du son la métamorphose de la femme en félin. Voilà. Non, c'est pas un concours, c'est juste pour le plaisir de vous entendre.
Il y a aussi une petite mélodie angoissante.
Pardon ?
Une petite mélodie angoissante.
Oui.
Ça joue un peu sur le fait qu'on ne voit pas la féline, enfin, on ne voit pas le monstre. Hmm. Ça laisse une part de mystère. Hmm.
Mais vous ne le voyez pas, mais est-ce que vous l'imaginez ?
Oui.
Donc c'est ça la question. Ce qu'on ne voit pas, on l'imagine, voyez. Et c'est là où, pour le dire très simplement, rendre les choses visibles, c'est empêcher de les imaginer. Voyez, parce qu'elles sont là sur l'écran, on n'a plus à les imaginer. Et quand on ne les montre pas, on doit les imaginer, on ne peut que les imaginer. Et c'est pour ça que cette séquence marche très bien, parce qu'on ne voit pas la femme se transformer en panthère, mais on l'imagine. Et c'est plus fort, enfin, me semble-t-il, ça fait plus peur d'imaginer que de voir. Voilà, parce que voir, c'était passé par un trucage relativement grossier ou maladroit, et quelque chose qui est forcément déceptif. Voilà. Donc, pour le dire autrement, je rebondis sur ce que vous dites, évidemment, pour le dire autrement, je dirais que rendre les choses visibles, c'est trop naïvement croire qu'en les montrant, on les fait exister, alors que, en fait, en les montrant, on les domestique, on les familiarise, on les met à notre portée, on les rend conformes à notre désir le moins exacerbé. Alors qu'en ne les montrant pas, évidemment, on fait jouer notre imagination, et notre imagination est toujours plus fantastique que ce qu'on nous montre. Autrement dit, montrer, c'est aussi décevoir. C'est ça qu'il faut. Et seuls les très grands cinéastes parviennent à rendre des choses visibles sans les rendre décevantes en même temps. Dans les films que je fais, comme dans ceux que vous faites, la plupart du temps, ce que nous arrivons à fabriquer est moins intéressant que ce que nous avons dans la tête.